Radio 1, premier sur l'info.
Jeudi 31 juillet, le journal de la mi-journée avec Samia Stambouli. Bonjour.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Dans cette édition, il sera question de la base navale de Papeete. Elle se féminise. Florence Petit est le nouveau commandant du remorqueur Manini, une première dans l'histoire de la marine nationale. On parlera de sport également avec la Billabong Rio Pro. Ça démarre officiellement le 15 août. Ce matin, le comité organisateur a donné une conférence de presse. Vous l'entendrez, pour les médias locaux, la couverture de l'événement s'annonce compliquée. On vous dira pourquoi. Et enfin, notre invité de cette édition, Jeffrey Salmon, ministre de la Culture, on parlera avec lui de la consultation Honoraua, ce vaste chantier qui doit se pencher sur le statut de l'artiste au Fénois et de l'économie de la culture, entre autres. Il répondra à mes questions. À tout de suite.
Alors, les bus de nuit vont être inaugurés demain.
Premier départ à 18h30 pour cette ligne qui desservira le Grand Papeete de Maïna jusqu'à Punaouia du jeudi au samedi et jusque 6h du matin. Des bus qui sont mis en place pour dynamiser la vie nocturne en facilitant le déplacement de la population en toute sécurité puisqu'un vigile sera à bord. Le prix du trajet est fixé à 375 francs, 300 si vous venez d'un établissement partenaire. Une conférence de presse aura lieu cet après-midi. Plus d'informations dans notre matinale de demain.
Et puis, il va y avoir une petite révolution demain à la base navale de Papeete.
En effet, le contre-amiral Anne Culler reconnaîtra le premier maître Florence Petit comme nouveau commandant du remorqueur Manini. C'est la première fois dans l'histoire de la marine nationale qu'une femme sous-officier prend le commandement d'un navire. Et pour en parler de la place de la femme dans la marine et de son bilan au terme de son séjour en Polynésie française, Anne Culler sera demain l'invitée de notre journal de midi. Elle répondra aux questions de Cédric Valax.
Et plus de 1000 enfants sont réunis depuis ce matin au stade Willy Bambridge.
Et ce, pour la journée internationale de la jeunesse célébrée le 2 août, la Polynésie, elle, a décidé de la célébrer en deux temps, le 13 août prochain au parc Bougainville, mais aussi ce matin au stade Willy Bambridge, où étaient réunis donc plus de 1100 enfants. Thème retenu pour cette journée, la Coupe du Monde des centres de vacances, choix motivé d'ailleurs par la dernière Coupe du Monde de football. Vaïté Ourali Pambrin était avec eux ce matin et s'est même essayé à ce sport. Reportage.
Ambiance très festive ce matin. Et encore, ce n'est qu'une mise en bouche, car aujourd'hui, il sera surtout question de ballon rond. Sandrine Huang, directrice du centre de loisirs Hoto Areyanui, a décidé de préparer ces jeunes.
Eh bien, on a mis en place certains ateliers tournants pour les familiariser avec les jeux qu'ils vont faire, les festifs. Aussi, ça peut permettre aussi à nos enfants de rencontrer d'autres enfants.
Anne-Éric Clémentine, qui dirige le centre Punareo, est venue avec une vingtaine de jeunes et ils viennent tous de Moria. La préparation, elle nous en dit plus.
Nous avons mis au courant 3 jours auparavant et puis ça a été très très dur pour les préparer et pour les tenues et pour le bateau et tout, mais ça va.
Chaque année, 250 centres de vacances en moyenne sont organisés au Fénois. 17 000 jeunes y sont accueillis et sont encadrés par 1 500 adultes formés. Pour ces vacances, près de 8 000 enfants sont allés en accueil collectif de mineurs, autrement dit en centre de loisirs. Tout comme Hiriata et Arinui, présents tous deux pour cette Coupe du Monde des centres de vacances.
C'est bien, moi et mes copines, on peut revoir d'autres amis à nous qui sont partis dans d'autres centres.
C'est formidable de se rencontrer avec tous les autres de Moria et de Papeete.
Cette journée a été mise en place par l'ONU en 1999. Cela fait 6 ans que le Fénois a commencé à célébrer cet événement, comme nous le souligne Noéline Parker, présidente de l'Union pour la jeunesse.
Le concept aujourd'hui est un peu différent des autres années puisqu'on a décidé de faire une Coupe du Monde des centres de vacances. On a voulu faire une synergie entre le sport et la jeunesse. Les enfants auront l'occasion de participer à 3 tournois sportifs, mais aussi à des activités qu'ils ont l'habitude de vivre en centre de vacances et qui fait le label un peu des centres de vacances.
Au-delà du ballon rond, d'autres ateliers ont été mis en place, comme le lancer, le saut ou encore des épreuves d'équilibre.
Les médias locaux vont être lésés par la Billabong Pro.
C'est ce qu'a déclaré Pascal Luciani, directeur de l'événement, lors de la conférence de presse de ce matin. Et pour cause, cette année, avec la nouvelle communication de l'ASP, les télévisions locales n'auront plus le droit à leur habituelle édition spéciale sur l'événement qui commence le 15 août. Petit lot de consolation, à peine 2 minutes par jour de diffusion seront autorisées. Une compétition donc qui s'annonce très réglementée pour les médias, les précisions de Pascal Luciani.
2 minutes par jour quoi, de compétition, je trouve que c'est quand même léger. C'est un événement qui est attendu par la population locale. Donc... donc là c'est depuis que la SP a repris en fait, depuis le début de l'année, ils ont repris le circuit, donc ils font c'est la même chose partout dans le monde. Au niveau des bateaux, ça sera plus la même manière de travailler, on aura plus nos médias sur les bateaux qui étaient en avant, mais maintenant c'est bon, rester au niveau de la ligne d'eau. Après voilà, c'est les sujets que tu vas faire, c'est qu'est-ce que tu vas prendre comme photo, si tu filmes. Dès lors que tu vas prendre une photo de la compétition, ça va être une affaire.
Pascal Luciani était au micro de Roxane Merlot.
Parlez maintenant de culture avec le statut de l'artiste.
En effet, je reçois ce midi dans le studio de Radio 1, Geoffrey Salmon, ministre de la Culture. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec vous de la consultation Honoraua. C'est donc cette grande consultation autour de la culture, de son économie et de ses acteurs. Mardi, vous avez donné une conférence de presse pour lancer ce vaste chantier. 10 tables rondes vont regrouper 300 personnalités qui vont discuter une fois par mois de 3 thèmes. La reconnaissance du statut de l'artiste et la place de la création artistique, l'émergence d'une économie de la culture et la protection du patrimoine culturel immatériel. Monsieur Salmon, première question, quelles sont vos attentes en tant que ministre de la Culture dans ce chantier où tout est à faire et tout à reconstruire ?
Essentiellement de pouvoir, à partir des acteurs du monde de la culture et des arts, mais également les institutions du pays que je représente et enfin un public large, d'avoir à répondre à certaines questions de façon à pouvoir, encore une fois, comme vous le disiez, je crois, doter l'artiste d'un cadre législatif, économique et réglementaire. Essentiellement, le but est d'avoir à mieux s'organiser et au travers de cet échange, qui prendra plusieurs formes, puisque vous l'avez rappelé également, il y a des ateliers, mais il y a une newsletter, il y a également un site internet et autres, Facebook. Typiquement, par exemple, une question qui pourrait être posée, comment définir aujourd'hui un artiste en Polynésie française ? Nous n'avons pas de réponse à cela. Quels devraient être les droits et avantages, mais aussi devoirs d'une personne jouissant d'un statut d'artiste du point de vue légal, fiscal, protection sociale, emploi, assurance, maladie, enfin, des questions qui
restent aujourd'hui sans réponse. Ce sont les 19 questions que l'on retrouve justement dans le site internet, le site qui a été lancé mardi en même temps que la conférence de presse, donc un débat dans lequel tout le monde peut prendre part. À Radio 1, on a déjà commencé le travail. Vaïté Ourali Pambrin a largement enquêté sur le sujet. Chanteurs, danseurs, peintres, musiciens, ils ont tous répondu à ces questions et leurs attentes sont énormes. Des états généraux de la culture, il y en a eu beaucoup. Nos artistes sont désabusés. Geoffrey Salmon, vous ne craignez pas finalement que cela soit interprété comme de la poudre aux yeux ?
Non, de toute manière, je ne l'aurais jamais mis en œuvre il s'agit pas d'états généraux, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus centré autour de l'artiste, avec des questions bien précises. Alors, c'est vrai que dans le monde de la culture, les égos sont particulièrement forts et tout débat est, on va dire, a beaucoup d'émotionnel en lui, et ce qui quelquefois donne au travers de certaines personnalités des dérapages de part et d'autre.
Ils attendent quand même depuis longtemps, on peut...
C'est la première fois d'ailleurs qu'on s'y attelle. Donc j'ai pris l'engagement, parce que ça fait également partie du programme électoral que nous avions mis en œuvre en 2013. Aujourd'hui, nous avons les moyens, nous y avons réfléchi, et nous allons faire en sorte d'avoir à définir tout ceci.
D'accord. On va revenir sur le statut en lui-même, conférence de presse. Vous aimeriez que l'artiste puisse vivre de sa passion pour, je cite, ne plus être dépendant des subventions et pour plus d'autonomie. Mmh. Alors on va entendre Gabilou, il est interrogé par Vaïté Ourali-Pambrin et on en reparle juste après.
Ben, il va nous donner droit à la CPS, à une retraite, parce qu'on n'a pas de retraite là. Il y a des artistes qui n'ont rien, qui n'ont pas de statut social. Ou alors ils cherchent un boulot pour avoir un statut social. Moi j'ai 70 ans, je ne sais pas si je vais toucher une retraite. Hein. C'est terrible quand on n'a pas d'argent, c'est terrible. Je suis désolé de citer le mot argent, mais c'est comme ça.
Donc Gabilou est un artiste bien connu, il va remplir Toata la semaine prochaine. Mais les artistes de l'ombre ont du mal à boucler les fins de mois. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ?
De venir participer de manière la plus large possible à ces échanges, apporter des questions sur le site, chercher des réponses, voir de quelle manière on peut en quelque sorte définir le squelette de ce qui pourrait être l'artiste et sa façon d'évoluer dans le monde culturel, mais aussi de quelle manière l'autonomie peut être recherchée. Effectivement, je souhaite que l'artiste, dans ce cadre particulier, il va falloir, disons, gérer la vision passéiste traditionnelle et celle qui se tourne vers l'avenir. Donc, pour ce faire, moi j'ai besoin de ne pas concocter un simple statut qui serait issu d'une théorie ou bien d'un pompage assez malheureux de ce qui peut exister en France métropolitaine, mais bien à partir de cet échange, à partir de ces questions, à partir des souhaits et des attentes.
Sur le volet économique, qu'en est-il de l'instauration d'un mécénat contre avantages fiscaux ? Ça se pratique dans beaucoup d'endroits, notamment en métropole. Ça pourrait injecter de nombreux fonds.
C'est exact. Je défends cette possibilité. Il y a d'autres, une défiscalisation. Il y a d'autres façons également de voir à venir aider les artistes. La création d'une agence, par exemple, pour les événements extérieurs, internationaux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites.
Un mot sur la participation des artistes dans les ateliers. Il commence au mois d'août. Qui sont ceux qui ont répondu à l'appel pour l'instant ?
Alors, nous avons lancé les choses. J'ai les établissements culturels comme le Conservatoire, le TFTN et autres musées et le service de la culture vont commencer maintenant à envoyer des lettres d'invitation où tout un chacun pourra participer. J'ai entendu quelques voix dissonantes récemment. Ça ne me dérange pas plus que ça, mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on laisse de côté les égos et qu'on vienne à table travailler.
Concernant le calendrier, je le disais en août, il y a les ateliers qui se poursuivent jusqu'au mois de novembre. Dans la foulée, la rédaction des principales propositions pour au final un projet de loi. Ce sera le bon cette fois ou est-ce que vous l'assurez, ce sera fait en concertation avec tout le monde ?
Oui, tout à fait. De toute manière, un projet qui ne se fait pas avec tout le monde est beaucoup plus de manière théorique, mais ne peut pas véritablement être appliqué. Si le projet de loi rencontre une antipathie, un refus, son application ne pourra pas se faire.
Donc le projet de loi, c'est en janvier. On peut prendre rendez-vous en janvier pour en parler ?
Bien volontiers.
Vous serez toujours ministre de la Culture ?
Ah, c'est une bonne question. À laquelle j'ai pas de réponse.
J'ai quand même essayé. Le rendez-vous est prêt en tout cas avec le ministre de la Culture en janvier.
Merci.
Merci Monsieur Salmon d'avoir répondu à nos questions.